Et je voulais éclairer ça. Ne croyez pas que cette hypothèse hébraïque, les Goïms ne peuvent pas la connaître, mais ils la connaissent à l'échelle individuelle, alors qu'elle est une donnée d'identité pour la collectivité d'Israël. Ça vous éclairera dans beaucoup de problèmes, cette catégorie-là. Est-ce que c'est clair? Oui.
Est-ce que vous ne croyez pas que je dois utiliser les principes
intérieurs? Attends, avant d'arriver à ta question, toi, tu as l'air hésitant.
Je comprends.
Tu comprends pas.
Et... Je vais vous donner
un exemple.
Voilà.
Bon, alors... Non, tu as raison. Mon exemple qui me vient à l'esprit, je ne vais pas vous donner aujourd'hui. On verra ça à la fin de l'année. Je vais vous donner un exemple. Donc, je vais choisir peut-être un domaine moral. Bon, reprenons la problématique de tout à l'heure. Nous allons voir que l'identité d'Israël va apparaître par rapport à ce conflit des deux valeurs. Justice, charité. Okay? Et je vous dis en hébreu, din, hesed. Quand on l'entend en hébreu, c'est violent, okay? Comme conflit. Le peuple d'Israël ne va apparaître que quand il y aura la perspective d'une unité de ces deux valeurs contradictoires, une synthèse. Et c'est pourquoi nous avons trois étapes au niveau des patriarches. Abraham, et ça vous l'apprendrez dans beaucoup de thèmes, Abraham a réalisé la vertu de charité. Yitzhak a réalisé la vertu de rigueur, de justice. Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, va les unifier. C'est pourquoi c'est Jacob qui s'appellera Israël. Et ce n'est qu'à posteriori de Jacob qu'Isaac et Abraham sont d'Israël. Parce qu'Abraham tout seul aurait pu être l'islam. Yitzhak tout seul aurait pu être la chrétienté. C'est Jacob qui est le juif. Alors Isaac et Abraham sont juifs, en face de son père de Jacob. Mais l'Abraham qu'a Ishmaël, c'est pas le nom. Celui-là qui s'appelle Ibrahim. Non, non, ça j'ai ajouté. Bon. Vous voyez, il y a trois vertus fondamentales qui sont la préhistoire, si je veux dire, de l'engendrement de l'identité d'Israël. Et il y a un ordre important, selon cet ordre, c'est pas dans un ordre, c'est dans d'autres cours. Et Abraham, Isaac, Jacob. Et Jacob devient Israël. Okay? Alors, cette intuition que pour être un homme moral authentique, il ne suffit pas d'être l'homme de la charité, ou il ne suffit pas d'être l'homme de la justice seul, mais qu'il faut les deux. Ça, c'est la collectivité d'Israël qui l'a en tant que descendant de Jacob. Cette intuition-là, n'importe quel goy peut l'avoir. Mais à l'échelle individuelle, nous n'avons aucun exemple d'une société goy dans toutes les cultures qui ait eu ça comme axe de sa conception de la morale. C'est où l'un ou l'autre. Vous suivez? Voilà. Un petit exemple qui a pu
peut-être. Est-ce qu'il y a conscience chez Abraham ou chez Israël qui leur manque?
Ils ont conscience d'être père. Il y a encore un fils à la chambre. Oui, c'est une manière de dire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils entendent. Tu vois, ils ont un fils, c'est pas fini. Et c'est finalement le petit-fils qui s'appelle Israël. Alors, il réhabilite son père et son grand-père. Vous suivez cela? Attendez, pour détendre un peu l'atmosphère, je vais raconter une histoire. À propos de la notion de jugement dernier, mettez ça dans votre page de notes là. Et qu'est-ce que ça veut dire le jugement dernier? On est tellement habitué à cette idée. Enfin, le jugement dernier, ça veut dire le dernier des jugements. Parce qu'un jugement authentique ne peut se faire qu'à la fin d'une histoire. Vous suivez? Est-ce que c'est clair? Tant que je ne sais pas encore les conséquences de, je ne sais pas ce que c'est vraiment. Il faut que les conséquences soient déployées pour que je sache qui était celui-là. Donc c'est au jugement dernier qu'on saura qui ont été tous ceux qui ont vécu depuis le premier ordre. Il faut attendre que toutes les conséquences de leur propre potentiel d'être qu'ils ont transmis dans la suite se dévoilent. Et vous voyez là, il y a une responsabilité des fils par rapport aux pères, surtout aux pères qui ont disparu parce qu'ils ne peuvent plus intervenir, qui est colossal. C'est le fils qui dira qui était son père. Vous suivez? Bon, c'est l'idée. Et on reviendra sur le problème du Kaddish. C'est pour ça que le fils doit dire Kaddish pour son père. Et c'est ça l'histoire, la blague juive que je voulais vous raconter. Est-ce que l'idée est claire? C'est-à-dire, par exemple, pendant 2000 ans, les Juifs ont espéré venir à Jérusalem. Et puis on ne pouvait pas. Alors ils espéraient qu'un de leurs descendants arrive à Jérusalem et authentifie que vraiment eux, ils espéraient. Alors oui, la responsabilité que vous avez sur les épaules, 2000 ans de Juifs, de votre famille, okay, arrive avec vous à Jérusalem. Bon, vous pouvez prendre rendez-vous à la fin août, vous avez le temps, pas tout de suite. Le problème, c'est que. Non, l'idée est claire, okay? Le jugement authentique ne peut être que le dernier des jugements. D'où l'idée du jugement seul. Ça a été clair. Et alors, on raconte cette blague juive. Moi, j'ai entendu, c'est ma femme qui m'a raconté en yiddish, mais je ne pourrais pas vous la dire en yiddish. Alors, essayez de la deviner dans l'humour yiddish. C'est une femme juive qui appelle la voisine par la fenêtre, elle dit « Sarah, ton kaddish est tombé par terre. » Qui c'est son kaddish? Son gosse. Parce qu'on appelait les enfants et mon kaddish, celui qui dira kaddish après moi. On dit « Fais attention, ton kaddish c'est catastrophique. » Bon, quand j'ai fait l'idée du jugement dernier, pourquoi on a parlé de ça? À la suite d'une question par là.
Pour les fils et les pères.
Non, oui, c'est ta question. Les fils et les pères. C'est toi qui as posé la question. Abraham, ça va.
Abraham, c'est pas qui on est.
Oui, remarquez cela que les premières lettres du mot Abraham, c'est les deux lettres à la père. Son nom, c'est d'être père de une des enfants. Et d'ailleurs, j'ai un problème avec la lumière. Et d'ailleurs, c'est le premier mot en hébreu, puisque c'est les premières lettres de l'alphabet. Aleph, Bet, A. Le premier mot, c'est Bet. Alors, je prends une grâce. Et pourquoi c'est pas mère? Bon, ça, je vous ai expliqué ça un jour.
Quelle? Bon,
vous avez vu qu'on n'a pas pu démarrer dans le cours, hein? D'ailleurs, ça, il faudrait qu'on se discipline rapidement en venant, c'est les premiers jours, et qu'un jour, vous me laissez faire cours. Remarquez, c'est un peu de ma faute. Parce que je me sens la perte dans toutes les directions, mais c'est normal au début, mais il faut arriver à pouvoir étudier en ordre, hein, très rapidement. Non, ce que je veux, c'est simplement que je prenne la méthode, pas que vous receviez comme ça des notions que vous allez mettre en ordre, mais que vous les découvriez par vous-même. Okay.
Est-ce que vous ne croyez pas que le judaïsme entretient une dualité avec le Yetzirara et le Yetzirara?
Bon, c'est une question qu'on étudiera. Une question qu'on étudiera, d'ailleurs probablement on l'étudiera assez rapidement avec le Kriyat Shema. Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Il y a deux bêtes dans ce leva.
Bon.
Alors vous voyez ce que dit Rashi là-dessus. Ken.
Pour
revenir
à la notion de décalage. Oui,
et on repartira de là. Hein.
Alors, on t'a dit que l'option invalide, c'était qu'il fallait supprimer ce décalage entre la vérité et la réalité. Est-ce que ça veut dire que par rapport à ça, on se référait à une vérité?
Par rapport à?
Par rapport à ça, est-ce que ça veut dire qu'on se référait à une vérité absolue?
Absolument. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le niveau de la sainteté. On apprendra ça beaucoup plus tard. C'est-à-dire un homme qui voit déjà le monde dans son aboutissement ultime. Et que bien que c'est un monde à l'état de brouillon, encore, eh bien, il le vit dans sa vérité absolue. C'est ça le niveau de sainteté. Ah oui, on en est un peu loin. Tu as compris l'idée. Je vais donner un exemple. Bon, ce qui apparaît du récit de la Bible, comme nous sommes en train de lire, c'est que Dieu a l'air d'être satisfait du monde qu'il a créé. Il a l'air, je dis bien. Okay? Et on viendra au décalage, il le connaît, c'est écrit dans la Bible. Et pourtant, nous verrons, et c'est un sentiment très fondamental, qu'on n'a pas le droit d'être satisfait tant que ce n'est pas parfait. C'est le blasphème absolu. Comment? J'ai en moi suffisamment de capacité d'exigence de la perfection et je vais me satisfaire de la perfection. Je suis un clou. Alors, il y a un problème. Alors, on raconte l'histoire de la manière suivante. Un jour, quelqu'un est allé commander un costume. Et il a dit au tailleur, voilà, j'ai un costume comme ça, comme ça, comme ça. Alors, le tailleur lui a dit, bon, reste-moi 6 jours de travail, le 7e, je te donne. C'est compris de là, où ça passe, c'est. Mais le client a été tellement impatient de voir son costume, tous les jours, il allait frapper chez le tailleur, mon costume. Il allait voir son costume. Dans un état de brouillon, enfin, je ne sais pas comment dire, de débauche, okay. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce tailleur-là? C'est ça un costume? C'est ça un monde? Il attend qu'il soit fini. Il disait, alors le client pieux, celui qui a déjà acquis cette patience et la sainteté, voit déjà sur l'établi du tailleur alors que c'est encore en morceaux, le costume déjà achevé. Il attend, il sait que c'est un costume. Et pas cette espèce de chiffon qui a une sécurité. Pensez un peu ça, Rolamazé.
Des costumes. Il ne doit pas faire.
Hein?
Que l'homme doit pas faire.
Oui, et l'homme doit collaborer avec. Bien sûr, il doit collaborer. L'abordage. Ça, nous apprendrons. Mais nous, est-ce que c'est qu'il y a? Bien qu'il y ait ce décalage, l'option est que ce décalage est provisoire. Et que la vérité ultime, l'absolu que tu as dit, c'est qu'il n'y a pas d'incidence. Et vous apprendrez, et c'est ça qui est important, que hors de quoi la conscience morale n'a pas de base. Parce qu'on pourra toujours trouver la Bible, dans la vérité de Ponsa, mais dans la réalité qu'on produit. Vous avez compris? Bon. Bien. Alors.
C'est un très bon lieu de nous faire passer une certaine vérité à travers des images. Parce que l'image, il faut se prendre en nous. On peut nous montrer n'importe quoi par l'image. Cette image du tailleur et de son costume. Si nous, en tant qu'homme, on doit partir le monde, le tailleur, c'est lui qui va faire brûler toutes les images du costume, donc ça ne marche plus.
Sur ta commande à toi. Et le costume qu'il fera, c'est toi qui l'as commandé. Bon, on peut améliorer l'image, mais c'est une histoire qu'on raconte beaucoup dans les livres comme exemple. Bon, je comprends dans ceci, mais on peut recoder. Et d'ailleurs, je vais te transmettre l'image et te faire une commande avant là. Bon, rendez-vous dans 7 jours. Bien. Alors, voilà ce que je veux dire, c'est que, inévitablement, d'étape en étape, vont s'accumuler ces déchets d'approximation. Nous le sommes en disant qu'on était avancé un peu dans cette idée à laquelle on va aller plus loin. Quelle est
une question, j'ai du mal à concevoir l'idée que cette approximation puis venait du fait de la création, de l'objet créé. Dans la mesure où, d'autant plus que cet objet créé viendrait bien du néant. Alors on pourrait concevoir que cette approximation fait partie de la volonté du néant.
Non. La possibilité de cette approximation sera partie du plan. Parce qu'elle est une des dimensions de la condition de liberté. Mais l'approximation elle-même vient de la création. Pour reprendre la toxicité, c'est une question importante, je vais la formuler autrement. Ça voudrait dire, et c'est ça qui est difficile à comprendre pour l'intelligence occidentale, que le monde était libre.
Avant qu'il soit créé, on faisait pour la lumière, peut-être, mais il avait pas raison. C'est comment, créé, comment l'objet qui a été créé, là, il va faire la lumière.
Mais avant qu'il soit créé, il est libre.
À quel moment hein?
Avant qu'il soit créé, mais non.
Bien sûr, il est libre.
Oui, mais avant qu'il soit créé, il n'était pas créé. Il n'était pas, il est libre.
Alors, je ne vais pas du tout. Il y a quand même ces deux niveaux. Le monde est libre à l'intérieur d'un certain nombre de coordonnées. Il n'est pas libre de ne pas être un monde. Comment il sera monde, ça il est. Ça, je ne sais pas une fois de cette idée. C'est-à-dire que je ne suis pas libre de ne pas être un homme. Okay? À la limite, je crois que je ne suis pas libre de ne pas être juif. Et d'ailleurs, chaque fois que je fais semblant de croire que je suis libre de ne pas être juif, le monde entier se ligue pour me le rappeler. C'est remarqué. S'il y a au moins une condition à laquelle on ne peut pas échapper, c'est celle-là. Et Hitler, pour être sûr qu'il avait tous les juifs, il en a même mis avec dès qu'il n'était pas. C'est remarqué ça. Et il y a ici quelque chose qui n'est pas un mystère, qui est de l'ordre du mystère. C'est que il faut assumer, je vous ai employé ce mot-là déjà, il faut assumer son identité, à l'intérieur de quoi on est libre de la réussir ou de l'échouer. Bon, il y a des niveaux plus élevés de la liberté, mais c'est déjà la base. C'est-à-dire, sois toi. Maintenant, sois-le le mieux possible, ça c'est toi qui es. Mais toi, c'est toi qui es toi et l'autre. Et je crois que, j'ai parlé un peu de ça à un niveau précédent, même si ça prend beaucoup de temps, essayez de dépasser cette difficulté. Je sais que ça prend beaucoup de temps. D'arriver à s'accepter comme point de départ. Okay? Alors on peut démarrer. Alors nous, on ne peut pas démarrer. Et je vous ai rappelé que c'est très lié au commandement du respect des parents. Vous vous rappelez de ça? Mais ça, on comprendra, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Et très souvent, beaucoup de juifs ont eu tendance à quitter le judaïsme parce qu'en réalité, ils voulaient quitter leurs parents. Et comment les problèmes psychologiques se mélangent aux problèmes spirituels. Est-ce que c'est clair tout de suite? Non. Alors, on va démarrer là-dessus. Simplement, je récapitule cette deuxième remarque qui était le point de départ de la réflexion aujourd'hui. C'est que nous entrons dans un monde encombré de scories du passé. De scories du passé. C'est ces déchets d'approximation. Okay? Et il y a tout un travail de tri à faire dans cet héritage. Okay? C'est le temps qui a fait que les choses sont devenues. Sont restées vivantes et d'autres sont devenues mortes. Et il faut trier ce qui est mort de côté, ce qui est impur de côté, ce qui est pur de côté. C'est-à-dire faire un travail de tri, c'est un terme que je reprendrai souvent après, je vous dirai en hébreu plus tard. Bon, je vous dis tout de suite, pour ceux qui connaissent l'hébreu, un bureau, hein, les ravages. Oui, l'idée d'un tamis qui fait partie. Finalement, il faut avoir de la farine. Bon, il faut passer tout ça au tamis. Et la sagesse, c'est ça. Savoir ce qui est pur et impur, savoir ce qui est bon et mauvais, c'est ça la sagesse. C'est Avodat HaBirurim. Les Abdil, Ben, Tom, Vara, Ben, Kodesh, Lechol, Rena. Mais c'est cet héritage-là sur lequel il faut travailler, et pas un autre. Je suis moi. Et dans ce moi, il y a le tout, il y a le bien et le mal. Alors, j'ai un travail à faire de. Ça y est, c'est clair. Bon. Et ça implique, et c'est ça la sagesse totale. Vous ne croyez pas que c'est simple comme science à avoir pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Sur quoi on dit bracha, sur quoi on dit banoura. Vous rappelez votre condition de rappel. Et alors, et ça c'est une première remarque, et j'arrive à l'objet du cours. Vous avez dû remarquer par vous-même qu'il n'y a pas écrit, et ce du soir, ce du matin, jour 7e.
C'était la question du cours dernier, le projet du 7e jour.
Bon. Alors là, nous allons procéder comme d'habitude, à la méthode que je vous propose, parce que les connaissances qu'il y a dedans, vous avez toute l'année pour les rassembler. Ça veut dire que tout se passe comme si. Et toute l'histoire de l'homme qui apparaît à la fin du 6e jour est logée dans un grand 7e jour. C'est clair? Je crois que je vous avais indiqué cela, il me semble.
Oui.
Bon, vous rappelez les images du calendrier de la semaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis le 7e jour commence. C'est clair? Voilà, il n'y a pas encore écrit Vayaere, Vayibokeh, Yom Shvi. C'est donc il y a un projet du 7e jour qui travaille, qui est en travail dans l'histoire humaine. Et lorsque ce projet sera accompli, alors il pourrait être écrit. Et ce fut soir, ce fut matin, jour 7e, et on passe au jour 8e. Nous avons parlé de ça. Mettez bien ça en catégorie. Okay. Alors, nous apprendrons que ce projet, c'est le projet de Saint-Denis. Je ne vais pas vous laisser trop un peu sur votre fin, parce qu'on arrive à la fin de l'heure. Et je vous demande de réfléchir, pour la prochaine fois qu'on se verra sur ce cours-là, à l'idée de sainteté. Et je ne veux pas, comme ça, de l'extérieur, vous donner une définition, mais réfléchissez à vous, comment vous définiriez la sainteté. Et oui, c'est très difficile. D'ailleurs, toute définition de n'importe quoi est très difficile. Par exemple, essayez de me définir cet objet. Donne-moi une définition. Bon, c'est un. Ça, c'est le nom. Hein? Bon, c'est la définition.
Un
objet qui sert à écrire. Mais tiens, il y en a un dans la main qui va le mien. Tu vois que ça ne marche pas.
Non,
mais tu as dit un objet qui sert à écrire. Ouais. Ça peut être autre chose que ça, un objet qui sert à écrire. Mais ça, c'est quoi? Bon. Vous voyez? On a que des approximations. Mais par exemple, je me rappelle. D'accord? Mais finalement, il faut avoir une intuition concrète qui est au-delà des définitions.
C'est ce qui décrit, sinon, c'est tout à fait autre chose.
Bon. En général, on a l'habitude d'avoir une définition pragmatiste à quoi ça sert. Ok? Mais ce n'est pas la définition de l'essence de l'objet. C'est la définition de son utilité.
L'objet
lui-même, alors. Par l'objet en soi, comme dirait ça. Soit ça. Mais, pour revenir au problème, je vais vous dire comment dans mes anecdotes personnelles. Un jour, j'ai cherché dans le dictionnaire la définition de judaïsme. Alors, j'ai trouvé religion des juifs. suis allé voir juif, membre du judaïsme. Voilà tout ce mec. Voilà. Et là, ouais, on est bien monté, quoi.
On dit par exemple le couleur, c'est par exemple ce stylo, bon, il n'est pas bleu, il est tout sauf bleu.
Ça c'est autre chose. Bon. Étant donné que.
C'est la même chose, que par exemple 4 est tout sauf un stylo.
Non, pour la couleur c'est vrai, pas pour l'objet. La couleur c'est vrai, parce que finalement, je vois le bleu parce que l'objet absorbe toutes les autres couleurs, pas pour lui et toutes les autres. À ce niveau-là, c'est vrai, mais pas pour l'objet lui-même. Alors, je reviens à ce problème. C'est donc que on arrive au septième jour et la Torah nous parle, dans les trois versets que vous avez étudiés, que Dieu entre dans l'état de Shabbat. Nous reprendrons cette étude, mais je veux quand même vous donner quelques indications pour que vous ayez un peu les idées claires. Alors, j'étudie les formules comme je vous les donne et on va les étudier après. C'est-à-dire que c'est le moment précis où l'homme entre dans le monde que le monde se transforme dans ce que nous appelons la nature. Parce que l'histoire de l'homme va commencer. Alors essayez de faire une équivalence dans votre pensée entre la notion de la nature, c'est-à-dire un monde qui fonctionne soumis à des lois déterminées, et d'autre part la notion de Shabbat, de Dieu dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fallait, pour que l'histoire de l'homme commence, pour que l'homme soit libre, il fallait que le monde soit déterminé. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, pendant les six jours, on voit un monde où Dieu intervient, et façonne et tout change. Constamment. Okay? Et puis, ce n'est pas le monde que j'ai sous les yeux. Le monde que j'ai sous les yeux et qu'étudie les savants, c'est le monde de la nature, dans le sens philosophique, déterminé par des lois. Okay? La Torah, c'est ça qui est la contradiction de ce qu'elle me dit et ce que je vois. Où est la contradiction? Elle me dit que le monde est créé. Mais ce que je vois, c'est une nature qui fonctionne toute seule, apparemment. Okay? Alors, ce texte vient nous expliquer qu'est-ce qu'il en est. C'est la création devenue la nature au septième jour pour que l'histoire de l'homme commence. Pour que l'histoire de l'homme puisse commencer. Parce que sinon, eh bien, nous serions comme les objets, privés de liberté. Je reprends cela, et là vous êtes au bord d'un problème qui va nous occuper pendant longtemps dans le cours de philosophie, mais pour bien vous éclairer des choses. On est juste au commencement du problème, de la définition du Shabbat. Mais qu'est-ce que la Torah veut dire en disant que le septième jour, et je remarque tout de suite que le septième jour, ça commence à la fin du sixième, mais c'est à la fin du sixième que l'homme est entré dans le monde. C'est lié. Okay? Que le septième jour, le monde devient la nature. Dans quel sens du terme de la nature? Un monde qui ne postule pas un créateur. Un monde qui me renvoie à la mentalité scientifique. C'est-à-dire un monde qui fonctionne d'après des lois déterminées. Une idée contradictoire avec l'idée du créateur et de la création. C'est clair? Alors la réponse de la Torah est très simple. Le monde duquel elle nous parle, c'est la création devenue la nature. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir pourquoi. Pourquoi devenue la nature pour que l'histoire de l'homme commence. Voilà. Alors je vais vous formuler déjà cette idée du temps de l'histoire, le temps de la liberté, dans le plan des six jours puis le septième, comme je l'avoue, c'est pas encore écrit. Et ce fut soir, ce fut matin, jour septième. Nous sommes encore dans ce monde du septième jour où il y a une preuve à faire. Okay? Un projet à réaliser. Nous sommes dans la cohérence du récit. Et ensuite, par vous-même, vous identifierez, par votre expérience de la vie et du monde, comment c'est dans la réalité. C'est clair. Bon. Et ce qui se pose là, qui est un problème extrêmement important, c'est le problème du concept de liberté de l'homme. Je vais vous en dire quelques phrases pour vous envoyer les dimensions, et ensuite on envoyera dans le cours de philosophie, parce qu'à partir de ce moment-là, à partir de maintenant, dans le cours de l'historiosophie, on va commencer avec l'histoire du premier homme. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce problème de la liberté? Dans la mentalité philosophique, et surtout dans la mentalité scientifique, mais c'est le même univers culturel, il n'y a pas de place pour la notion de liberté. Pourquoi? Parce que s'il y a du déterminisme dans le monde, et il y a, la science me le démontre, il n'y a pas de raison qu'il y ait un être du monde qui soit un cas particulier. Si le monde est déterminé, il est déterminé. Et par conséquent, il n'y a pas de raison que l'homme fasse exception. Or, l'homme se connaît avec un sentiment de liberté, d'où une contradiction très antinomique. Hein? Vous voyez, un savant qui fonctionne comme savant, n'a pas de place pour la notion de liberté humaine. Il l'éprouve d'autre part. Hein. C'est d'autre part qu'il y croit quand il y croit. Pourquoi ?
Enfin, ce qui est triste, c'est que ce n'est pas.
Quoi, ce qui est écrit ?
Ce qui est triste, ce n'est pas que pour nous avons, mais que chacun.
D'accord, mais parce que nous baignons dans la mentalité philosophique. Pas toute minute, je vais terminer un livre. Parce que nos évidences de base, nos évidences immédiates, sont celles de la culture contemporaine, qui a pour base les corps de la pensée scientifique. Je pense que c'est clair. Hein. Et par conséquent, si les principes de la science sont vrais, or ils sont vérifiables, donc ils sont vrais, je schématise, mais vous comprenez ce que je veux dire, il n'y a pas de place pour la notion de liberté humaine. Pourquoi ? Parce que la raison fonctionne de cette manière. Si vous semblerez qu'il y ait une contradiction entre le déterminisme et la liberté, quelle contradiction ? Or, comme je suis frappé par la vérité du déterminisme, je mets en question la liberté. Voilà un peu quelle est l'ambiance de mentalité de ce problème dans la culture contemporaine. La Torah va inverser radicalement les données. Et ce qu'elle nous enseigne, c'est que c'est tout le contraire. Pour que l'homme soit libre, il fallait que le monde soit déterminé. C'est ça que je voudrais vous faire découvrir. Et voyez à quel point c'est simple. Hein? Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Ce qui me mènerait à nier la liberté humaine, alors je l'éprouve, d'une manière ou d'une autre. Hein? C'est l'inverse. C'est que pour que la liberté de l'homme soit possible, il faut que le monde devienne déterminé. C'est-à-dire, en langage public, il faut que Dieu s'interdise d'intervenir dans l'histoire du monde dès que le septième jour commence. Et c'est ça qui s'appelle le cheval de Dieu. Vous voyez, c'est clair ? Bon. Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des cas où il intervient. Okay ? Et c'est ça qu'on appelle un miracle. Et c'est un miracle quand les lois de la détermination du monde sont suspendues. On verra quels sont les cas où il intervient. Mais le premier principe, suivez, c'est pas trop vite. Le premier principe, c'est ça. C'est qu'au moins, on va pouvoir aménager dans notre mentalité hébraïque une place pour la liberté humaine, bien que la science a raison.
Le monde déterminé, ça veut dire tout, toute la création, sauf l'homme.
Et sauf quoi dans l'homme ? Le corps est déterminé.
Ouais, d'accord, mais il y a quand même quelque chose dans l'homme.
Voilà.
D'accord.
Ah, bon. Bref.
Les Shabbat.
Hein ?
Les Shabbat. Et Shabbat également. Si tout a été créé, disons, pour que l'homme arrive
à devenir libre.
À devenir libre, non uniquement Shabbat.
Exactement. Et c'est le Shabbat.
Shabbat qui a
et vous allez dire,
vous dites pas.
Non, non, non. C'est un autre aspect de la question. Suivez tout la même idée. Et vous allez découvrir, j'ai un peu parlé de ça dans l'histoire, que c'est le Shabbat que l'on est vraiment libre. Or, une approche faussée de la pratique du Shabbat a fait que on risque d'avoir l'expérience inverse, que le Shabbat on est prisonnier. Vous voyez à quel point c'est une histoire de fou, ok ? Bon. Et vous savez ça, que ceux qui pratiquent vraiment le Shabbat sont libérés. Alors comment se fait-il qu'il y a tellement de juifs qui aient l'impression que le Shabbat, ils sont au contraire prisonniers ? C'est que c'est un faux Shabbat. J'ai pas dit un faux juif. Et alors, on découvrira tout ça. Tout ce qu'on a récupéré dans la mémoire. Une espèce de virginisation de la mémoire qui nous fait, il faut s'hébraïser, recommencer avec les Hébreux. Et se débarrasser de ces 2000 ans de voyage dans l'enfer, qu'on appelle. Alors, je vais aller leur rendre visite cette semaine. Vous allez faire un moment. D'ailleurs, c'est un défaut de prononcer. Mais vous avez vu, vous en avez eu la preuve à Anvers. Enfer. Enfer. Alors, je reviens au problème. T'as compris ce que je dis ?
Il y a
une
pour employer le terme
femme. Nahon. Il est moins cher. Oui, il est moins
cher,
tu me prends quand même de lui.
Encore.
Il y a quelqu'un qui joue avec moi. C'est mon droit. Simplement pour éclaircir ça. Voilà. Si les lois, ce que j'appelle les lois de la nature qui stabilisent le monde où je vis, alors je peux être libre. Vous avez découvert, si mon monde extérieur n'est pas stabilisé, je ne peux pas être libre. Enfin, je ne peux pas prévoir l'instant suivant. Ma liberté ne peut pas s'effectuer si je ne peux pas prévoir l'état du monde dans la seconde qui suit. Donc il faut que le monde soit stabilisé de telle sorte que je puisse prévoir son état dans la durée du temps qui vient, et alors ma liberté peut s'effectuer. Est-ce que c'est clair ? Et vous comprendrez une chose au niveau pédagogique ou psychologique en général. c'est que la discipline est la condition de la liberté. Sinon, il y a arbitraire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Ce n'est pas du tout en tant que directeur d'école que je vous parle. Hein. C'est pour éclaircir le problème. C'est la loi qui libère. Alors, comment se fait-il qu'on a l'impression inverse, qui nous vient d'ailleurs de la mentalité chrétienne, au contraire, la loi contraint. Alors que l'intuition juive, c'est que la loi libère. C'est clair. Articler Haoud de la Herout.
La sèse chrétienne, quand même.
Je ne parle pas de la sèse, je parle de la loi.
C'est important de développer
des termes. Oui, tout ça, on prendra. Mais je vais arriver à une idée précise pour vous expliquer ce que je veux dire en disant que la détermination du monde, c'est ça qui permet la liberté de l'homme. Plus mon monde extérieur est déterminé, plus je suis assuré de ma liberté. Et je vais vous parler d'une conscience humaine, d'un type de conscience humaine qui n'avait pas cette perception que le monde est déterminé et qui n'avait pas non plus corollairement la notion que l'homme est. C'est la conscience magique. La conscience magique est plongée dans un univers où tous les phénomènes sont capricieux. Vous suivez ? C'est d'ailleurs une conscience affolée, la conscience magique. Je ne sais pas ce que la pierre va faire tout à l'heure. Je ne sais pas ce que l'âme de la pierre va décider. Vous voyez ? La conscience magique. Pour accéder à ce qu'on pourrait appeler la modernité, eh bien, il faut accéder à cette notion que c'est la détermination qui fonde la capacité liberté. Maintenant, il est suffisamment clair ? Bon. Par exemple, si quand nous allons sortir de la pièce, on ne trouve plus d'escalier. Pourquoi ? Eh bien, parce que les lois ont changé. Alors, paralysie totale. L'homme de conscience magique vit dans cet affolement perpétuel. Est-ce que c'est clair ? Et, j'ai lu il y a quelque temps un livre de science-fiction. On ne pourrait plus vous dire ni son titre, ni son auteur. Je pense que c'est pas de l'âge américain. Qui a bâti son livre sur une hypothèse. Il y a un livre extrêmement intéressant d'ailleurs, parce qu'il décrit la fin d'une civilisation quand on a perdu ce sentiment de stabilité du monde extérieur. Okay. D'ailleurs, on étudie en biologie qu'il y a des carences alimentaires qui mènent à la conscience magique. En particulier, une carence en sel mène à la conscience magique. Ou l'importance du sel dans le repas. Okay. On se rappelle qu'il y a un créateur quand on mange, on trempe le pain dans le sel. Vous avez compris le lien ?
Oui.
Parce qu'il faut nourrir le corps et la moustique. Le féminin. Et alors, l'hypothèse de ce roman de science-fiction était que le papier disparaît. D'un coup, il n'y a plus de papier. Toute la civilisation s'écroule. Il n'y a plus de billets de banque. Il n'y a plus de livre de comptabilité, il n'y a plus d'archives, il n'y a plus de livres. Alors imaginez, je ne sais pas avec quoi est fait le papier, ça vient du carbone. Bon, imaginez que l'atome de carbone change de statut. Vous voyez ? Résultat, la liberté disparaît. Le monde n'est plus stable. Vous voyez ? Est-ce que c'est clair ? Bon, alors un petit voyage. Dans la mentalité générale, la culture contemporaine, la notion de liberté contredit la notion de détermination. Or, quand on est habitué à étudier le monde à travers la catégorie du déterminisme, c'est la science, on y arrive. L'hébreu pense de manière radicalement différente. C'est tout le contraire. La notion de détermination fonde la notion de liberté. Et il n'y a plus de problème. Ça y est, on a un cauchemar qui est évanoui. Un cauchemar philosophique. Est-ce que c'est clair ? C'est ce qui nous est raconté dans ces trois versets. Vaishvot et Loki Vayamashti. Le monde devient la nature pour que. Verset suivant, elle est au lot à Adam, l'histoire de l'homme commence. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Tout va bien ? Bon, ok. Ouais, merci.
La tyrannie est l'un des lois déterminées,
mais
pas libre.
Bon, là, ça c'est autre chose. Ça c'est suppression de la liberté. Un homme qui a perdu sa liberté parce que notre homme la lui enlève. Mais en tant qu'homme, il était libre. On le lui enlève. Ça, c'est autre chose. Ça ne vient pas de la nature. Ça vient de la société humaine. Ça, c'est le sens social du monde de liberté. Alors, écoutez, cet après-midi, en principe, nous devions avoir un cours sur la diaspora. Et non, avec moi, puisque je m'en vais la semaine prochaine, c'est Robert Rickman qui fera cours la semaine prochaine. Bon, attendez. Ce soir, nous allons avoir une réunion de promotion.